nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble pour.
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
À l'occasion de la remise officielle, le 15 juin 2011, d'une lettre de Descartes, disparue depuis 172 ans et restituée à la bibliothèque de l'Institut de France par Jean Bonnat, correspondant de l'Académie des Beaux-Arts, Canal Académie cède la parole à Gabriel De Breuil, chancelier de l'Institut, à Hélène Carrère-Dancos, secrétaire perpétuelle de l'Académie française, et à Jean Bonnat. Ils reviendront tous trois sur les mystères de la lettre du 21 janvier 1641. Tout de suite, Gabriel De Breuil rend hommage au geste de son confrère, membre de l'Institut, et tout comme lui, bibliophile averti.
Nous sommes réunis autour d'un document d'une grande importance, extrêmement précieux, qui porte à lui seul toute la gloire d'une collection. Nous sommes réunis autour d'un savant et d'un penseur, Descartes, dont on a dit qu'il pouvait symboliser à lui seul l'apport de la pensée française à la civilisation. Ces souvenirs ne sont pas inertes aujourd'hui. Ils s'animent en regardant le document. J'ai envie de dire qu'ils palpitent à l'évocation de la circonstance qui nous rassemble. Nous sommes en effet réunis autour d'un éminent collectionneur, d'un grand érudit, d'un immense mécène, qui édifie avec une détermination et une exigence remarquables plusieurs collections, à la fois de manuscrits, de livres et de dessins, dont il a publié le catalogue, et qui sait transmettre la mémoire et la passion des grandes actions qu'il accomplit sous nos yeux. C'est de Jean Bonnat que je veux parler. Genevois et aussi parisien, d'adoption et de cœur, vous êtes issu d'une famille de banquiers, établie depuis plusieurs générations à Genève. Après des études de droit commencées en Suisse et poursuivies à New York et à Londres, vous entrez dans la banque familiale Lombard, Rodier, Darier, Hensch et compagnie en 1971. Depuis, vous avez présidé et présidez encore de nombreux organismes bancaires, dont le groupement des banquiers privés genevois, l'Institut international des études bancaires et encore l'Association des banquiers privés suisses. Si vous le permettez, c'est de vos passions que je voudrais parler, et de la première, la passion des livres. Elle vous a conduit à réunir un ensemble exceptionnel de livres dans lequel la littérature française occupe une place de choix. Collectionneur, vous êtes aussi un érudit respecté, membre de nombreuses sociétés, dont l'Association internationale de bibliophilie, l'Association suisse de bibliophilie. Vous êtes membre de la Société des bibliophiles François et, depuis 2003, vous êtes président du conseil de la Fondation Bodmer, dont la prodigieuse bibliothèque est connue de tous. Puis-je ajouter qu'elle bénéficie non seulement de vos conseils, mais aussi de votre générosité éclairée. Des livres rares au dessin de maître, il n'y a qu'un pas, vous l'avez franchi depuis de longues années en constituant une collection de tout premier ordre. Dans ce domaine, votre curiosité vous a très vite conduit à nouer des contacts avec les plus éminents historiens de l'art, les conservateurs des plus prestigieux musées du monde. Vous êtes membre du Visiting Committee du département du dessin du Metropolitan Museum of Art et de celui de la Pierpont Morgan Library à New York. Vous siégez au Conseil de la Frick Collection à New York et à l'International Council du Centre Harvard pour l'étude de la Renaissance italienne. Vous êtes aussi depuis peu membre du groupe des Patrons of Old Masters Drawings du British Museum et celui de la Graphische Gesellschaft de Berlin. Cette liste n'est pas exhaustive, mais il me plaît de la rappeler parce qu'elle dit assez le plaisir que vous prenez au contact avec les œuvres et aux échanges avec les chercheurs, les conservateurs et les jeunes étudiants. Comment s'étonner que vous ayez trouvé le chemin de l'École des Beaux-Arts et de son prestigieux patrimoine, de ses collections de livres anciens et de dessins qui remontent, rappelons-le, à l'Académie royale de peinture et de sculpture fondée par Louis XIV en 1648. Et comment s'étonner que vous en soyez aussi le généreux mécène. Le portrait de Jean Bonnat, bibliophile, ne serait pas complet si j'omettais de parler du plaisir de la recherche qui vous anime, de l'attrait dévorant de la quête, ce sont vos propres termes, et de la jubilation de la conquête. C'est en vente publique en Allemagne, en 1998, que vous avez acquis de haute lutte une rare lettre datée de 1641 de Descartes à Mersenne et qui était destinée à Hobbes. Cette lettre complétait parfaitement votre collection, qui compte 4 éditions anciennes du Discours de la méthode, y compris l'édition originale, 2 éditions des Méditations métaphysiques, 1 des Principes de la philosophie. L'ardeur des enchères à Berlin lors de la vente traduisait bien l'importance de ce document. Mais les experts d'alors n'avaient pas révélé toute l'histoire de cette lettre. À la lumière de la découverte récente par un chercheur néerlandais, puis de la remise à l'Institut de France l'année dernière, à la même époque, dans ces mêmes lieux, par l'université américaine d'Haverford College, d'une autre lettre de Descartes à Mersenne, un examen scientifique du document vous a conduit à identifier la provenance. Cette lettre que vous avez acquise en toute bonne foi et en toute légalité, vous avez pris aujourd'hui l'initiative de la donner à l'Institut de France, car vous avez découvert qu'elle avait fait partie des archives de l'Académie des sciences, qu'elle avait été soustraite à la bibliothèque de l'Institut vers 1840 par un malfaiteur qui a déjoué tous les soupçons, le funeste Libri. Ce savant, historien des sciences, membre de l'Académie des sciences, était un escroc qui fit des ponctions considérables et scandaleuses dans les collections françaises et pas seulement à l'Institut de France. Jusqu'à une date récente, l'Institut a eu honte de Libri et au point de ne plus oser mentionner son nom. À la fin du XIXe siècle, alors que Léopold de Lisle transmettait à l'Institut des autographes anciennement volés par lui, qu'il avait récupéré, il ne faisait allusion à l'affaire qu'à mots couverts, n'évoquant que de vagues soustractions sans citer aucun nom. Cette pudeur n'est plus de mise. Des personnalités de haute valeur morale, comme vous-même et le président Emerson de Haverford College, nous ont fait l'honneur de nous remettre, sans y être obligés, des documents volés par Libri. Et nous ne nous tairons plus. Bien au contraire, avec votre aide, celle de nos amis bibliophiles, marchands et hommes de loi, nous revendiquerons de tels documents lorsqu'ils apparaîtront sur le marché. Nous déplorons que le recel ne soit pas partout reconnu comme un délit. Les vendeurs de cette lettre de Descartes n'avaient malheureusement pas révélé son origine. Mais nous pensons qu'un tel secret deviendra désormais impossible. Outre que les moyens modernes de communication accélèrent la diffusion de l'information, nous nous acheminons, j'en suis convaincu, vers une moralisation du marché de l'art et vers une plus grande transparence. Descartes, jeune, avait déjà pour devise « Bene vixit, qui bene latuit », soit en français « heureux qui a vécu caché ». Par votre éducation et votre discrétion personnelle, cher Jean Bonnat, vous ressemblez à Descartes. Acceptez cependant que je ne garde pas secrète les circonstances dont vous avez entouré votre démarche. Lorsque vous m'avez demandé rendez-vous, il y a quelques mois, sans m'avertir de l'objet, vous m'avez dit, avec une simplicité qui, sur le moment, m'a profondément ému, « Voilà, cette lettre vous appartient, elle est à vous, je vous la rends, je ne pouvais pas faire autre chose. » Par une extrême délicatesse, vous avez, à cette occasion, précisé que vous étiez heureux d'accomplir ce geste en qualité de confrère de l'Institut, s'adressant au chancelier, mais aussi en qualité de membre de la Société des bibliophiles François, s'adressant à son président. Il n'est pas nécessaire de rappeler ici que cette société est la plus ancienne en France, créée en 1820, que cette compagnie comprend 40 fauteuils, qui sont pourvus à leurs vacances par élection, qu'elle comprend depuis l'origine 5 fauteuils de dames et 10 membres associés étrangers, et que tous ces membres consacrent à l'objet de la société, c'est-à-dire l'amour des livres, autant d'érudition et de passion que les membres de nos compagnies académiques. Aussi, lorsque nous aurons reçu la précieuse relique de Descartes, les bibliophiles vous remettront, chers confrères et chers collègues, en témoignage très modeste de notre estime, le fac-similé de cette lettre, lui-même précurseur d'une plaquette que nous imprimerons en votre honneur. Mais nous tous qui sommes réunis ici aujourd'hui, nous voulons saluer la noblesse du geste de piété envers notre patrimoine et envers la culture en général que vous accomplissez aujourd'hui, l'Institut de France vous en exprime par ma voix sa très profonde reconnaissance.
Écoutons maintenant Madame Carrère d'Encausse dévoiler l'histoire pleine de péripéties de cette lettre de Descartes au père Mersenne.
Le chancelier a tout dit sur cette lettre et sur la manière dont elle nous revient. Je voudrais juste ajouter quelques réflexions sur Descartes et le hasard, parce que je crois que c'est de circonstance. Au fond, dans le monde de Descartes, il n'y a pas de place pour le hasard, c'est ça la vérité. C'est un monde bien ordonné, l'enchaînement des causes mécaniques suffit à expliquer tous les mouvements de l'univers et des choses matérielles, et dans les actions humaines elles-mêmes, l'indétermination constitue aux yeux de Descartes le plus haut degré de la liberté et pour ainsi dire sa négation même. Donc pas de hasard. Or, si nous sommes réunis aujourd'hui, et si nous avons déjà été une fois pour la remise d'une autre lettre, eh bien c'est par une succession absolument miraculeuse de hasard. Seul le hasard a joué là un rôle. Alors c'est par hasard aujourd'hui que nous récupérons par cette généreuse donation la lettre de Descartes à Hobbes. C'est l'échange d'idées entre Descartes et Hobbes qui a été adressé au père Mersenne. Les spécialistes vont tout à l'heure dégager l'intérêt de cette lettre, mais rien ne laissait présager qu'un jour on la retrouverait. Rien ne le sait présager, le chancelier a évoqué Libri, je voudrais juste dire un mot de celui qui portait un nom très impressionnant, puisqu'il était le comte Guglielmo Brutus Icilius Timeleone Libri Carucci della Somaia, que nous avons bien connu sous le nom du comte Libri. Nous avons connu le comte Libri parce qu'il était membre de l'Académie des sciences, qu'il était titulaire de la chaire de mathématiques au Collège de France, ce qui est tout à fait honorable, et qu'il avait été nommé en 1841 pour son érudition considérable pour l'histoire du livre, secrétaire de la commission du catalogue général des manuscrits et bibliothèques de France. C'est ça qui lui a permis précisément de fréquenter toutes les bibliothèques. Et je rappellerai juste ce que le chancelier n'a pas évoqué, que le comte Libri feignait une mauvaise santé et vêtu d'une cape extrêmement impressionnante, toussant et grottant. Il s'enfermait, il exigeait une place pour lui tout seul dans les lieux où il allait, les archives, les bibliothèques. Ce qui lui permettait, par tous les temps d'ailleurs, il avait cette cape impressionnante ou ce menton impressionnant, ce qui lui permettait, une fois qu'il avait été enfermé, de, je dirais, d'arranger à son gré ses intentions, et il a subtilisé un nombre considérable de manuscrits où il a mutilé d'ailleurs des ouvrages. Ça, c'est l'histoire du comte Libri. En tout cas, il a subtilisé sur les 75 lettres de Descartes à Mersenne, dont la présence était attestée en 1872, entre 1837 et 1847, en 10 ans. Alors, personne ne s'est tellement méfié de lui, parce qu'il était tellement respectable et couvert de titres, que ça n'est que tardivement qu'il a attiré l'attention sur sa personne. Bon, il s'est enfui en Angleterre, il a été condamné par contumace à Paris, et parmi les actes d'accusation, on citait expressément les lettres qui avaient été dérobées à l'Institut de France. Cela dit, le retour de ces lettres, d'ailleurs le retour du produit de ces vols, n'était pas du tout certain, au contraire, puisqu'il avait vendu une partie de sa collection à Lord Ashburnham. Il n'avait pas justifié la provenance, naturellement. Et c'est Léopold de Lille, administrateur de la Bibliothèque nationale, qui avait obtenu des héritiers de son acheteur la restitution d'une partie seulement des documents volés. Donc, en définitive, tout ça a été réparti dans la nature. Et c'est là qu'interviennent les hasards dont nous sommes les bénéficiaires. Le chancelier l'a évoqué tout à l'heure, mais je voudrais dire que c'est vraiment par hasard qu'un jeune étudiant hollandais qui faisait des recherches sur Google dans la bibliothèque d'une université proche de Philadelphie est tombé sur la première lettre et que finalement elle a été identifiée et restituée généreusement à l'Institut. De la même façon, autre hasard, le chancelier, président de la Société des bibliophiles François, a pris la décision de raconter cette extraordinaire affaire. Et c'est par ce hasard que M. Bonnat, notre confrère de l'Académie des Beaux-Arts, a réfléchi à la question, cherché dans ses propres collections et décidé de cette généreuse, je ne peux pas appeler ça une restitution parce que vous n'avez rien à restituer, cher monsieur, de cette généreuse donation de quelque chose qui avait été enlevé aux collections de l'Institut de France. Donc, il n'y a véritablement que des hasards. Alors, je voudrais dire que j'ai regardé dans le dictionnaire de l'Académie, dans la 9e édition, la définition du mot hasard, ça me paraissait important, rencontre imprévisible de séries d'événements indépendants et ne résultant d'aucune intention. C'est tout à fait exact que les choses se sont passées de cette manière. Alors, je voudrais dire qu'on peut se perdre dans l'enchevêtrement inextricable de causes qui ont permis cette restitution à l'Institut que nous célébrons aujourd'hui. Mais la vraie cause, celle que je voudrais souligner, c'est aujourd'hui la générosité et la noblesse de pensée de notre confrère, M. Jean Bonnat, sa libéralité, qui permet à une lettre de Descartes de revenir dans la bibliothèque à laquelle elle a appartenu. Et je voudrais terminer en disant que la définition que donnait Descartes du terme « généreux » dans le Traité des Passions, c'est celui qui, dans la conduite de sa vie, ne laisse jamais rien au hasard. Alors, pour conclure, je dirais que c'est tout de même un paradoxe que le philosophe de la certitude absolue, qui a tout fait pour exclure le hasard de l'intelligence du monde et de l'action des hommes, nous revienne aujourd'hui par le plus grand des hasards. Je vous remercie.
Le mot de la fin revient à Jean Bonnat. Ce généreux mécène, tout aussi humble qu'érudit, fait part de sa joie d'avoir pu remettre cette lettre à son propriétaire légitime.
Ce n'est pas sans émotion que je m'adresse à vous ce soir. Depuis toujours, cet endroit est si prestigieux pour moi qu'il y a encore peu de temps, je n'aurais jamais imaginé être un jour nommé correspondant de l'Académie des Beaux-Arts, ce qui m'autorise à vous dire ce soir, chers confrères. Peut-être cela nécessite-t-il quelques mots d'explication. Genevois et protestant, j'ai pourtant été élevé dans une tradition française et j'ai toujours considéré Paris comme ma capitale culturelle. C'est la première grande ville que j'ai découverte, bien avant l'âge de 10 ans, quand on y venait de Genève en voiture, en deux étapes, en faisant halte à Avallon ou à Sens. Émerveillé, j'ai découvert le Louvre, le musée du Jeu de Paume, quand Orsay n'était encore qu'une gare, Notre-Dame, la Sainte-Chapelle et ses vitraux, la place des Vosges et l'île Saint-Louis. Depuis lors, j'ai découvert et même habité bien d'autres grandes villes du monde. Mais aucune n'a jamais exercé sur moi la fascination de la ville-lumière. Par la suite, la vie a voulu qu'elle devienne aussi une capitale affective, puisque ma fille, que des circonstances familiales empêchent malheureusement d'être présente ce soir, y a passé pratiquement toute sa jeune vie et est devenue une Parisienne par excellence. Mon amour des livres m'a amené très tôt à hanter les quais de la Seine et des boutiques des libraires du quartier latin. J'ai grandi avec Villon, Rabelais, Montaigne. Puis viendra Jean Racine, l'un de vos plus illustres prédécesseurs. Trésorier à Moulins, reçu en 1673 au 13e fauteuil, à la place de François de la Motte-le-Vaillé, qui avait succédé à Claude Gaspard Bachet, sieur de Mézyriac. Pour citer le dictionnaire de l'Académie française, dont je possède l'édition originale de 1694 et qui est le numéro 1 du catalogue du XVIIe siècle. Pour moi, la folie d'Hermione, les adieux de Titus à Bérénice, la mort de Phèdre et le songe d'Athalie, que je récite encore par cœur, représentent une perfection formelle de la langue que plus personne n'atteindra jamais, au point que j'ai coutume d'appeler le XVIIe siècle le siècle de Racine et non, comme Voltaire, le siècle de Louis XIV. Plus tard, je me suis passionné pour le XIXe siècle. Je fouinais partout à la recherche de ces livres qui sentaient la poussière et le temps révolu. J'adorais le papier, et c'est comme ça qu'est née ma bibliothèque. Au commencement, elle était liée au texte, et au texte uniquement. Puis peu à peu, je l'ai voulu complète et recherché des exemplaires rares, des provenances prestigieuses et si possible des reliures de l'époque. Pour certains volumes, la chasse a duré 20 ans. Elle dure encore. Vous l'aurez compris, je suis collectionneur. C'est une maladie qui n'est pas héréditaire, mais qui est certainement incurable. Quel que soit son domaine, le champ en est immense. Et il n'est pas surprenant que lorsque l'on possède l'édition originale du Discours de la méthode, reliée à l'époque en vélin hollandais, édition publiée, je vous le rappelle, à Leyde, chez Jean Maire en 1637, d'avoir envie d'y ajouter une lettre en rapport avec le livre, qui contient aussi la dioptrique, les météores et la géométrie, qui sont des essais de cette méthode, comme le dit le titre. Cette occasion s'est présentée le 7 juillet 1998. La fameuse maison de vente d'autographes Stargardt à Berlin offrait sous le numéro 415 de sa vente d'été. La notice du catalogue n'indiquait aucune provenance. Mais j'ai fini par trouver une transcription de ce document autographe publié dans la correspondance de Thomas Hobbes par l'Université d'Oxford en 1994 sous le numéro 29. L'article ne mentionnait rien de plus que l'affiche de Stargardt. Le sérieux de l'Université d'Oxford m'ayant rassuré, j'ai décidé de tenter ma chance. Manifestement, je n'ai pas été le seul, car la lettre a très largement dépassé l'estimation haute et a remporté la plus forte enchère de toute la vente. Si bien que le surlendemain, elle a eu les honneurs de l'International Herald Tribune, de la Frankfurter Allgemeine Zeitung et de la Handelsblatt. Je l'ai donc fièrement ajouté à mon exemplaire du discours de la méthode. 12 ans plus tard, Vérène de Disbar-Soultrey, en charge de la rédaction du catalogue exhaustif de ma bibliothèque, l'examina attentivement pour écrire la notice qui devait figurer dans le tome consacré au XVIIe siècle. Si le document était bien authentique et l'écriture de Descartes parfaitement identifiable, plusieurs numérotations plus ou moins lisibles et surtout une trace d'un cachet enlevé anciennement attirèrent vite son attention. La lettre en question n'était pas inédite et avait été mentionnée dans la fameuse édition de Clercelier, comme vous nous l'avez rappelé, en 1667, comme dans la publication des œuvres et de la correspondance de Descartes entreprise par Charles Adam et Paul Tannery à partir de 1896 pour célébrer le 3e centenaire de la naissance du savant. Cette énorme somme en 5 volumes, rééditée récemment en 1987 avec le concours du Centre national de la recherche scientifique, indique pour cette lettre de Descartes à Hobbes, référencée sous le numéro 228, que le texte en a été donné d'après une copie de Bonne Compagnie. La notice citait d'autres noms, tels Lahire et Don Poirier, qui jusqu'alors n'évoquaient rien pour Madame de Soultrey, mais ne manquèrent pas d'aiguiser davantage sa curiosité. Se plongeant dans la longue introduction de l'édition donnée par Adam et Tannery, elle ne tarda pas à comprendre que les fameux numéros portés ça et là sur la première page du document correspondaient au classement entrepris à la fin du XVIIe siècle par le mathématicien Lahire et à celui que Don Poirier avait effectué sous le consulat. Ayant autrefois travaillé sur une correspondance de Guglielmo Libri, le personnage lui était familier et l'examen à la lampe de Wood fit partiellement apparaître l'ancien cachet utilisé par l'Académie des sciences. Ce dernier, apposé à l'encre rouge, est paraît-il plus facilement délébile, ce qui facilita sa suppression avant que le document ne quitte définitivement la France au milieu du XIXe siècle. Si j'ai toujours apprécié le professionnalisme de Madame de Soultrey, cette découverte est certainement l'un de ses coups de maître et je tiens à la féliciter très chaleureusement et publiquement ce soir. Sans elle, je ne serais pas parmi vous et cette lettre figurerait dans mon catalogue comme l'autre missive que je possède, en français celle-ci, et qui se trouve être la dernière rédigée par René Descartes, Descartes avant qu'il ne décède à Stockholm le 11 février 1650. Guglielmo Libri a volé cette lettre à l'Académie des sciences il y a 172 ans. Elle a dû avoir depuis sa vente à Lord Ashburnham un grand nombre de propriétaires qui, je l'espère, étaient tous comme moi de bonne foi. Néanmoins, elle n'a jamais cessé de vous appartenir. En vous la rendant ce soir, je suis heureux de l'avoir retrouvée la place qu'elle n'aurait jamais dû quitter au sein de cette correspondance scientifique échangée via le père Mersenne. Je me réjouis que les chercheurs, tels ceux de l'Université d'Utrecht, puissent dorénavant examiner le document original et non plus la seule transcription que Bonne Compagnie en avait faite, et je suis fier de servir l'Institut de France, que j'admire profondément et depuis toujours.
Thank you.